Et tout de suite, on retrouve Marion qui a rencontré Sylvain Ernaud et Julie Lalouette-Geoffroy de Splone à l'occasion du premier anniversaire du média d'investigation breton.
Le journalisme d'investigation locale est à l'honneur avec le média breton Splone, S-P-L-A-2-N. Et Splone fête son premier anniversaire. Mais Splone, c'est plus qu'un média breton, c'est la première ONG d'enquête journalistique en Bretagne. Sylvain Ernaud, membre du comité éditorial de Splone, et Julie Lalouette-Geoffroy, journaliste indépendante, sont avec moi pour échanger autour du journalisme local et des enquêtes portées par Splone. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Pour présenter Splone, j'ai parlé d'une ONG d'enquête journalistique, mais pour qu'on comprenne bien, pourquoi une ONG? Comment pourriez-vous définir son modèle économique?
L'objectif de Splone, c'est vraiment partie de journalistes qui voulaient se structurer ensemble pour pouvoir travailler sur des enquêtes au long cours. Donc on n'est pas un média dans le sens où on aurait une périodicité avec une publication tous les jours ou toutes les semaines. Donc ça, c'est l'objectif qui explique un peu la coquille dans laquelle on s'insère. Et en termes de modèle économique, on est financé uniquement par les citoyens. C'est-à-dire qu'on n'est pas l'émanation d'un média qui existerait déjà en Bretagne. On est financé uniquement par les citoyens.
Et donc, comme tu viens de le dire, Splone repose sur une levée de fonds et refuse toute subvention ou financement d'entreprise. Par ailleurs, vos comptes sont rendus publics. On sait que le journalisme peut répondre à des intérêts politiques ou privés. Ce modèle est donc une façon de préserver votre indépendance sans être soumis à des pressions ou des censures. Les enquêtes que vous financez portent sur des sujets d'intérêt public, par exemple l'agroalimentaire ou encore des sources d'énergie. Pourquoi ces enquêtes ne pourraient-elles pas être réalisées par des médias dits classiques ou des médias dits privés? Quels sont les enjeux?
Moi, je vais déjà répondre sur la question du temps. C'est le temps de l'investigation, du travail d'enquête, de pouvoir vraiment fouiller des sujets et de pouvoir prendre le temps qu'on veut pour pouvoir creuser jusqu'au bout tous ces sujets-là. Et ça, c'est un temps qu'on n'a pas vraiment dans la presse traditionnelle, avec une périodicité et donc des contraintes horaires de publication. Donc ça, c'est l'avantage que l'on a pour nous, c'est de pouvoir prendre le temps nécessaire.
Oui, en fait, il est important de souligner que nous, on est surtout producteurs d'informations. On a certes un site web sur lequel nos enquêtes sont publiées, ainsi que des compléments d'informations, mais surtout, on a des partenariats avec des médias plus ou moins importants, mais parmi les gros médias, on peut citer Mediapart ou France 3, l'antenne France 3 Bretagne via son site web et via aussi les JT. Donc on est sur des modèles économiques différents et la télévision publique est du coup partenaire de Splone, la télévision qui est financée par la redevance jusqu'à présent, avant qu'elle saute malheureusement. Mais donc on n'est pas dans l'opposition des modèles. On peut être financé par des médias qui eux touchent de l'argent de la part des annonceurs, qui touchent de l'argent de l'État. Mais en revanche, nous on souhaite accentuer pour deux raisons principales ce côté d'indépendance économique. Déjà parce que en tant que petit média, enfin en tout cas en tant que ONG, on serait davantage sensible à des conflits d'intérêts, parce qu'on pourrait probablement moins qu'une grosse rédaction affronter des gros intérêts. Et puis c'est aussi vis-à-vis du public, c'est un contrat de confiance en fait qu'on essaye d'établir en disant on se repose sur vos dons, on fait un pari, celui que vous allez financer l'information de qualité. Ce qui est important parce que depuis une vingtaine d'années, on dépense moins, on a moins l'habitude de s'abonner pour des journaux et c'est bien dommage. Et donc en contrepartie, on vous dit, vous nous donnez de l'argent et nous on ne va pas aller voir ailleurs. On ne va pas aller frapper à la porte des collectivités locales, puisque en plus les enquêtes ont des chances de porter sur elles à un moment ou à un autre. Encore moins à des entreprises via la publicité ou via le mécénat qui se développe beaucoup.
Et tout à l'heure, Julie, tu en parlais, le journalisme d'investigation indépendant nécessite un temps long pour mener des enquêtes. Et alors, dans un premier temps, à Splone, un comité éditorial de journalistes professionnels, dont tu fais partie, Sylvain, sélectionne des sujets proposés par des journalistes, des lanceurs-lanceuses d'alerte, des citoyens-citoyennes. Et je voulais te demander justement comment fonctionne ce comité éditorial. À quoi êtes-vous attentif pour choisir de mener une enquête ou pas?
Oui, voilà. Alors, on est 6 membres du comité éditorial à titre bénévole. Donc, moi-même, dans Splone, je dois préciser que je suis bénévole, que je n'enquête pas sur le terrain. Mais en revanche, j'interviens à plusieurs moments, notamment pour recueillir soit des propositions d'enquête, soit des donc qui émaneraient par exemple de journalistes pigistes, hein, qu'on appelle les freelances ou les indépendants, soit avoir nous-mêmes nos propres idées et essayer de formaliser les pistes, les axes de travail. On en a aussi. Recueillir les alertes des citoyens aussi, il est possible. On a une adresse mail sécurisée qui est accessible via le site. Et puis on peut mettre en place des protocoles aussi, je le dis, s'il y a des auditeurs qui auraient des dossiers sensibles à nous transmettre. On en discute avant et on leur proposera des protocoles pour nous donner ces documents. Donc voilà, il y a ce recueil de l'information et cette sélection très drastique, puisque on va au final financer 3 ou 4 enquêtes au long cours par an. Donc évidemment c'est peu et elles ont intérêt d'être sur des sujets déjà d'intérêt général, on l'a déjà dit, sujets sensibles, peu explorés par les autres médias, sinon ça n'a pas d'intérêt, ou alors apporter des compléments d'informations, des angles qui n'ont été pas traités jusqu'à présent. On y reviendra, je pense, c'est le cas de l'enquête sur Iberdrola.
On en parlera juste après.
Exactement. Et donc après il y a la sélection des journalistes, on essaye de créer des binômes d'enquête qui associent des profils complémentaires, certains qui sont plus à l'aise avec l'écrit, d'autres spécialisés en radio ou par exemple dans le data journalisme. Donc ça c'est intéressant parce qu'on a l'ambition de diffuser sur des supports différents, même si la base ça reste pour nous l'écrit. Et après il y a l'accompagnement, donc tout au long de l'enquête on fait des réunions, donc là c'est en gros deux référents parmi le groupe des 6 du comité éditorial, deux référents qui suivent ce binôme d'enquête. Et surtout à la fin, y a la vérification. On est très attentif là-dessus, c'est-à-dire qu'on demande à nos enquêteurs de nous ramener des documents sourcés, qu'on puisse vérifier un peu comme dans un travail scientifique, en fait. C'est la méthode scientifique, c'est-à-dire que nous-mêmes, on puisse vérifier parce qu'on va soit avoir des révélations, soit mettre en cause des acteurs importants. Et il faudra évidemment pouvoir y répondre, être même prêt à y répondre devant les tribunaux. On s'y prépare et on recrute, on fait appel même à des avocats qu'on paye pour relire nos enquêtes. Et puis j'en profite pour dire aussi qu'on fait évidemment appel au contradictoire qui fait partie des B.A.B.A. de la déontologie journalistique. Donc c'est un peu le rôle aussi du comité éditorial, c'est de vérifier que le contradictoire est respecté dans nos enquêtes.
Et tu viens d'en parler, ton travail est bénévole et consiste à accompagner des journalistes, des enquêteurs, et eux justement sont rémunérés en fait. Ils font les investigations au long cours qui sont rémunérées grâce au financement que Splone récolte. Et je voulais m'adresser à toi, Julie, tu es journaliste indépendante, tu as mené différentes enquêtes sur les questions environnementales et agricoles, notamment pour reporters, culture marine ou produits de la mer, par exemple. Et je voulais savoir, par rapport aux enquêtes au long cours que tu as pu mener, quels sont les différents obstacles auxquels tu as pu être confrontée et justement, comment s'explique le temps long d'une enquête ?
Un obstacle déjà c'est l'argent, hein, parce que il faut être payé, c'est aussi simple que ça. Donc généralement en fait quand on travaille en tant que journaliste indépendant, on est payé à l'article, donc au rendu final et à la longueur de l'article. Donc quand on parle de par exemple le prix d'une page Word, en fait ça inclut la recherche, la vérification, les interviews, les déplacements, la réflexion, etc., etc. Donc il faut trouver le ratio pour rentrer dans ces frais, et dès qu'on est sur une logique d'enquête, ça demande un temps d'approfondissement, de maturation, et c'est pas pour autant que l'enquête va être beaucoup plus longue en termes de longueur, quoi. Donc c'est faut trouver justement un ajustement là-dessus. Donc déjà il y a ce premier critère financier, et c'est pas forcément compatible. Enfin tous les mois on paye un loyer et on mange même tous les jours, donc il faut quand même avoir de l'argent pour ça. Voilà. Donc c'est pas, alors que d'habitude en fait on est payé à la parution. Donc c'est un vrai enjeu là-dessus économique qui est très important. Et quand on est tous les jours par une publication qu'il faut justement par exemple publier à un rythme quotidien, voilà, le temps long et le temps court est pas forcément facile à ajuster, donc c'est important d'avoir ce temps là, c'est un aspect vraiment important là-dessus, quoi. Après il y a d'autres freins, ce que disait Sylvain sur le fait qu'il y ait plusieurs personnes qui encadrent, qu'il y ait une équipe, c'est hyper important, parce qu'un des freins c'est l'isolement. Si on est tout seul sur une enquête et qu'on reçoit que ce soit des appels, des textos, etc., on peut se sentir très vite très isolé. Le fait d'avoir des collègues à qui parler, de pouvoir voilà, échanger, fait que on se sent pas seul, mais surtout on peut faire bloc et vraiment avancer. Et c'est là-dessus en fait où le rapport de force peut être vraiment plus intéressant, quoi.
Et on parle d'enquête, peut-être que l'on peut s'intéresser à la dernière enquête qui a été publiée par Splan, Iberdrola, quand l'énergie propre a les mains sales. Cette enquête porte sur la société Iberdrola. Iberdrola, c'est le géant de l'énergie qui détient à 100% la filiale bretonne Elmarine. Et Elmarine a pour projet d'implanter 62 éoliennes dans les fonds marins, dans la baie de Saint-Brieuc. Et quand on s'attaque à un sujet aussi controversé et qui touche aussi à des intérêts privés, le travail est sans doute très long, très minutieux. Sur cette enquête précisément, combien de journalistes ont été mobilisés? Quel a été le temps, par exemple, dédié aux discussions, justement, l'avant-enquête, et le temps aussi consacré à l'enquête?
Donc il y a deux journalistes qui ont été payés pour ce travail. C'est pas l'enquête la plus ambitieuse en temps ni en moyens, mais ça va quand même toucher autour de 15 000 euros de budget global, dont une grande partie pour la rémunération. Et en gros, on a eu trois mois de travail. On est essentiellement là sur du desk, bien qu'on avait une journaliste au Brésil. Mais on est sur un travail de moins de terrain que de desk. Donc pour compléter ce que je disais tout à l'heure sur Iberdrola, sur le projet en baie de Saint-Brieuc, qui n'est même plus en l'état de projet, puisque les éoliennes sont en train de pas d'être montées, mais en tout cas, les fondations sont en train d'être construites actuellement. Nous, on a pris un parti assez radical, en fait. On s'est dit, Iberdrola nous promet une énergie verte, quelque chose qui n'est pas d'atteinte sur l'environnement. Nous, on n'a pas voulu faire ni le projet ni le procès de l'éolien en mer, on n'est pas entré dans ce débat. C'est pas nous qui allons le trancher, et on ne s'est même pas intéressé au projet de Saint-Brieuc. On s'est dit, qu'est-ce que Iberdrola fait depuis plus de 10 ans en Amérique latine, en particulier au Brésil et au Mexique, puisqu'ils ont à la fois des parcs éoliens et aussi des barrages hydroélectriques, notamment en Amazonie. Alors, qu'est-ce que Iberdrola fait dans ces différents pays? Est-ce que ça correspond un peu au cahier des charges européen et français? Et non, pas du tout. Donc, on a trouvé et vérifié qu'effectivement, cette entreprise, à plusieurs reprises, avait porté atteinte soit aux droits humains et notamment aux peuples dits autochtones, différents peuples qui habitent dans ces régions, y compris en pleine forêt amazonienne, et aussi des atteintes à l'environnement, en termes de atteinte à la biodiversité, atteinte aussi à la ressource en eau. Quand on construit un barrage hydroélectrique sur un grand fleuve, ça va modifier l'écosystème. La déforestation pose aussi question. Voilà, on a, je pense, démontré que derrière les grands discours de la société Iberdrola, mais il y avait une réalité assez autre. Et pour tout vous dire, on pourrait aussi enquêter sur les pratiques d'EDF. Alors, on ne s'est pas attaqué à Iberdrola parce que c'est des Espagnols et qu'ils arrivent en France. On s'est intéressé à eux parce qu'on est en Bretagne et qu'ils construisent ce projet. Mais si EDF avait gagné l'appel d'offres, et comme EDF a aussi des activités très controversées au Mexique, on aurait pu aussi, et peut-être qu'on le fera, s'intéresser à cette autre grande firme.
Donc l'enquête porte globalement sur Iberdrola, un géant qui porte aussi un sujet beaucoup plus local, qui peut nous toucher en Baie-Saint-Brieuc via une filiale. C'est comme ça qu'on peut faire le lien. Et je voulais vous demander, en tant que journaliste, tout à l'heure vous parliez d'Iberdrola qui se disait préoccupé par la préservation de l'environnement, mais ces informations bien sûr interrogent, surtout au regard des informations que vous avez recueillies, et surtout les énergies renouvelables divisent. Alors quelle est votre règle d'or à laquelle vous ne dérogez jamais pour vous sentir libre dans vos investigations?
Règle d'or, je sais pas comment on réfléchit à nos sujets. En tout cas, On se met pas, enfin, on a forcément des préjugés, et d'ailleurs, bon, en tant que journaliste, en tant que citoyen, d'ailleurs, on a des préjugés, et on essaye, en tant que journaliste, du coup, d'y répondre. Là, en quelque sorte, on a voulu prendre un contre-pied. On n'a pas voulu, comme je le disais, dénoncer, dire les énergies comme l'éolien en mer ne sont pas des sources intéressantes à exploiter. Mais dire en fait, on n'a pas forcément de tabou, parce que on a pris une sorte de risque, un peu un contre-pied. On explique qu'on est particulièrement sensible à la cause écologique, au respect de l'environnement. D'ailleurs, l'enquête, au final, le montre. Hein. Mais on peut aussi s'attaquer à des choses qui font quasiment un consensus dans la sphère écolo, hein, parce qu'en Bretagne, ici, le projet éolien, il est soutenu hein, par les écologistes au niveau du conseil régional, par exemple. Là, c'est l'État hein, qui a choisi d'accorder cette concession à la société Iberdrola. Voilà, c'est aussi la procédure d'appel d'offres que cette enquête peut amener à faire réfléchir, sachant que, je disais, c'est un complément au travail qui a été mené, y compris par la presse régionale et aussi par Mediapart, parce que Laurent Mauduit, pour Mediapart, a déjà produit plusieurs enquêtes qui portent sur les volets un peu plus financiers, justement, parce qu'il y a le parquet national financier qui enquête hein, sur justement cet appel d'offres. Donc, nous, on a décentrer notre regard hexagonal et on est allé voir ce qui se passe en Amérique latine, ce qui n'avait jamais été fait jusqu'à présent.
Et juste pour rebondir là-dessus, sur le côté règle d'or, en fait, je pense que ce qu'on peut avoir en tête, c'est qu'on est des journalistes qui ancrés dans notre territoire, et ce qui nous anime, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe en Bretagne, c'est quoi les dynamiques sur le territoire, des tendances qui sont en train de bouger, et c'est ça vraiment qu'on regarde, c'est de comprendre ce qui s'y passe et d'être attentif aussi à l'impact que peut avoir notre travail, d'essayer de suivre justement des sujets et enfin de pas toujours avoir le nez sur une petite actualité, d'essayer de dézoomer pour essayer de faire ressortir un peu ces grosses lignes de faille en fait qui animent le territoire.
Et on parle de journalisme indépendant et de règles d'or parce que le journalisme indépendant est vital aussi pour le fonctionnement d'une démocratie. Et justement, j'ai lu que pour garantir l'indépendance de Splone, le média est composé d'un conseil de surveillance porté par les membres fondateurs. Un conseil de surveillance se différencie du conseil d'administration. Mais le conseil de surveillance, c'est quelque chose de connu, mais est-ce que c'est habituel pour un média ?
En tout cas, on a regardé comment fonctionnait Disclose, qui est notre parrain par ailleurs et qui est vraiment le modèle qu'on utilise à l'échelle régionale. Donc Disclose, qui est une ONG, pareil, lanceuse d'enquêtes sur des sujets très lourds, à l'échelle même internationale, sur les essais nucléaires en Polynésie, sur les ventes d'armes de la France en Égypte notamment. Et eux-mêmes avaient ce conseil de surveillance. Ça existe aussi dans les grands groupes avec les grands groupes actionnariaux, mais là c'est pas du tout le même objet.
Ici il s'agissait d'un garde-fou.
Bah, nous c'est un garde-fou dans le sens, c'est aussi vis-à-vis de l'association en fait. Les membres, on estime que les membres fondateurs sont garants de l'identité et des raisons qui ont donné lieu à la création de cette association. Donc ils ont un droit de regard sur les activités et si l'association grandit, qu'il y a de nouveaux membres qui intègrent, il restera les membres fondateurs comme garde-fous au cas où il y aurait un dérapage, quelque chose contraire au statut, puisque l'idée c'est de s'appuyer sur les statuts, hein, bien sûr.
Aujourd'hui, le média Splone a un an. Deux enquêtes libres ont déjà pu être publiées, une première sur l'ammoniac en Bretagne et la seconde concernant Iberdrola que nous avons évoquée. Et je voulais vous demander, en tant que journaliste, est-ce que vous avez le sentiment que ces enquêtes peuvent avoir un rôle essentiel face aux enjeux actuels de la planète ? Est-ce que la question de l'impact, justement, comment vous la posez dans votre métier ?
bah, elle est super importante et fondamentale pour nous. On essaye justement de pouvoir prendre le temps de mener les enquêtes et de suivre derrière les conséquences que ça peut avoir, de rester en fait en veille là-dessus, parce que quand il y a une première publication, et ben justement, ça peut permettre à des citoyens de se dire « Ah tiens, moi aussi, j'ai quelque chose à apporter », et on reçoit des mails après en réponse à ça. Donc il y a cette question du suivi qui est important pour nous.
Oui, alors d'ailleurs, j'invite vos auditrices et auditeurs à s'inscrire à notre infolettre qui est gratuite, distribuée à peu près tous les mois via le site splant.org, donc splan2n.org. Et dans ces infolettres, dans ces newsletters, on a un droit de suite. Et comme au fur et à mesure, on va publier de nouvelles enquêtes, ça va s'étoffer. Pour l'instant, les droits de suite ont surtout porté sur l'enquête ammoniaque. Et il y en a eu. Donc l'impact, il se mesure... alors on essaye aussi de mesurer ça, notamment dans les rapports qu'on va rendre aux donateurs. C'est pas forcément évident parce qu'on ne sait pas à quel moment ça a pu déclencher, par exemple, des versements de subventions. Mais on voit... Moi, j'ai le sentiment, et on l'a mesuré, par exemple, au nombre d'occurrences du terme ammoniaque dans la presse, et aussi dans les communiqués, dans les prises de parole des associations écologiques, c'était moins le cas avant. La question de l'azote, elle se rapportait surtout aux algues vertes. Or, l'azote qui donc se retrouve épandu sur nos champs, ça crée aussi ce gaz qui est précurseur de particules fines et qui a une incidence aussi sur le milieu proche des élevages, puisque voilà, c'est issu des excréments des bêtes. C'était une problématique qui était jusqu'à présent peu médiatisée. J'ai l'impression qu'on y a contribué. Et après, bon, bah, ça se mesurerait. Le mieux, ça serait qu'il y ait des changements réglementaires, parce que souvent, ça ne suffit pas de faire des préconisations, c'est déjà le cas, hein, mais qu'il y ait des obligations, qu'il y ait peut-être des changements de normes. Et si nous, on peut contribuer à le mettre davantage sur la place publique, on aura réussi notre pari, on sera satisfait en tant que journaliste, et après, bah, à d'autres d'agir. On peut leur demander des comptes, hein, on peut demander aux politiques pourquoi vous n'avez pas fait, vous n'avez pas voté de loi, pourquoi vous avez continué à autoriser, surtout ça en ce moment, la problématique de l'extension d'élevage qui n'apporte pas de garantie sur la question des émissions d'ammoniac. Donc on peut continuer à interpeller, et puis on peut aussi aider les gens qui ont envie d'interpeller les politiques là-dessus en leur donnant des billes, quoi. C'est là où on se voit dans cette grande chaîne de la démocratie.
Et pour finir, on pourrait peut-être parler du sens du média. On parlait tout à l'heure de l'impact, alerter les citoyens, citoyennes, surtout que vos enquêtes portent sur, pas forcément l'actualité locale, mais ce qui nous touche toutes et toutes en Bretagne, notamment via Iberdrola, qui peut paraître éloigné, mais qui joue un rôle également dans notre région. Le média Splon est le premier média d'investigation indépendant. Avant vous, en Bretagne, il n'y avait pas de média équivalent. Est-ce que vous avez le sentiment de jouer un rôle précurseur ? Pourquoi c'était essentiel d'avoir ce média-là sur cette terre qu'est la Bretagne ?
Je n'utiliserai pas le mot précurseur, mais en fait, je pense que ça répond à nos attentes personnelles en tant que journaliste professionnel dans nos différentes activités. On s'est dit qu'il y avait un manque, qu'on ressentait personnellement un manque, qu'on avait envie de faire de l'enquête au long cours sans avoir de problème par rapport à des financeurs, etc. Et c'est pour ça qu'on a créé ça. Donc, c'est une réponse déjà à nos manques professionnels, quoi.
Vous n'aviez pas assez de liberté dans votre travail
En fait, par exemple, quand on travaille pour une publication qui va être un journal de presse professionnelle qui s'adresse à une catégorie professionnelle spécifique, c'est compliqué de faire une enquête au long cours sur la pollution à l'ammoniac en Bretagne. Et particulièrement, même pareil si on travaille pour la presse nationale. Parce qu'un article sur la Bretagne, une fois, deux fois, d'accord, trois fois, quatre fois, oulala, la Bretagne, ça va, il y a autre chose en fait. Donc c'est comment s'inscrire dans l'agenda médiatique des médias eux-mêmes, dans leur hiérarchie de l'information. Et là, en fait, on s'émancipe complètement de ça, parce qu'on se dit, nous, on a envie de mettre ça à l'agenda. Et c'est ce qu'on fait. Et on n'a pas de compte à rendre, que ce soit un rédacteur en chef ou des annonceurs. On s'émancipe complètement de ça pour faire uniquement ce qu'on, nous, on a envie de faire.
Ouais, je dois rappeler le contexte aussi de la création de Splon. qui intervient après la formation au début d'un collectif informel de journalistes qui éprouvent des difficultés ou alors se sentent solidaires des consoeurs ou confrères qui soit subissent de la censure, soit de l'autocensure. C'est surtout de l'autocensure en réalité à cause des formats trop court, ou alors des procès bâillons, des procédures comme celle qu'a subi Inès Leroy, qui est notre marraine, donc autrice d'Algevert, l'histoire interdite, et puis membre aussi de l'équipe. Et donc notre réponse à ces différentes attaques, remises en cause des journalistes, ou manque de moyens, c'était de répondre en tant que professionnel, donc en publiant, en créant, parce que au début évidemment les pétitions, les interpellations, les tweets, c'est bien, mais le mieux c'est de faire, donc faisons.
Merci à vous Julie et Sylvain d'être venus me parler de journalisme d'investigation locale, et on le rappelle, c'était à l'occasion de la première fête d'anniversaire du média Splone qui s'est tenue à Rennes ce 21 mai.
Merci Marion.
Merci
à toi Marion.